Les textes de la liturgie de ce dimanche veulent nous faire découvrir un aspect de Dieu, une caractéristique de Dieu. On nous a donné le livre de l'Exode, un passage que vous connaissez bien, c'est le veau d'or, donc Moïse qui est monté sur la montagne, conversait avec Dieu, eh bien, il descend et il va trouver un veau d'or. Et pourtant, il faut remonter, reprendre le décalogue, mais Dieu avait bien dit, « Je suis ton Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Donc tu ne feras pas d'image de ce qui est au ciel, sur terre ou sous la mer, etc. Mais la tentation est grande. En Égypte, il y avait énormément de faux dieux, de représentations, et donc ils cèdent à la tentation. Pourquoi ? C'est bien plus facile d'avoir un Dieu à sa portée de main, qu'on peut toucher, etc., et dont on peut s'éloigner également. Si vous êtes de l'autre côté du mur, vous ne voyez plus le veau d'or, vous êtes tranquille. Et donc c'est quelque chose, vous voyez, d'instrumentalisé, et donc c'est d'une certaine façon plus pratique. Mais alors c'est une faute énorme, parce que Dieu avait bien dit qu'il ne fallait pas faire ces représentations. Et parce que, pourquoi ? Parce que c'est une fausse route. C'est un passage sans issue. Et Dieu, on fait parler Dieu, on le fera encore parler pendant quelques siècles, comme ça, comme un humain, avec les réactions d'un humain. Donc il se met en colère. Il faudra plusieurs siècles pour découvrir autre chose. Mais il se met en colère et il propose d'exterminer. Et alors Moïse intervient, vous voyez. Donc là aussi, il faudra découvrir plusieurs siècles pour découvrir qu'on n'a pas à amadouer Dieu. Ça prendra du temps. Alors on voit très bien le dialogue de Moïse pour apaiser la colère du Seigneur. Qu'est-ce que le peuple doit découvrir ? Eh bien, on le voit, c'est que Dieu pardonne. Voilà. Dieu pardonne, et toute la traversée du désert, on verra qu'il se fourvoiera, et à chaque fois, Dieu va le contenter et pardonner. Alors, dans l'Évangile, vous avez les publicains, les pécheurs courent après Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens, les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Les pharisiens étaient des gens tout à fait remarquables. Les évangiles nous montrent surtout le défaut des pharisiens, mais c'était quand même des gens très bien qui cherchaient à suivre la loi le plus près possible. Et c'est un mouvement qui est né, je ne sais pas, 138 avant Jésus-Christ, s'est ouvert à Jérusalem une école de théologie. J'ai oublié le nom de celui qui avait ouvert l'école. Et il se formait donc à approfondir la loi et il la pratiquait, ils essayaient de la pratiquer dans les moindres détails. Seulement, vous comprenez, l'esprit humain, la patte humaine, à cause du péché originel, est toujours la même. Et donc, il y a des travers. C'est pas difficile à comprendre. Quand vous vous donnez, vous faites de grands efforts pour accomplir votre devoir d'État, pour faire ce qui vous paraît juste aux yeux de Dieu. Dans la vie religieuse, c'est la même chose. On a chacun un secteur de ménage dans la maison à faire. Alors vous vous crevez à faire votre ménage, et puis vous voyez le frère d'à côté qui se la coule douce, les doigts de pied en éventail, le couloir qu'il doit faire est plein de poussière, plein de mimi, mais il ne fait rien. Et alors, à ce moment-là, en vous, vous voyez, il y a un sentiment qui monte en vous. Et comme ça m'était arrivé, Père André m'avait dit, je vais vous prêter un livre que je ne lui ai jamais rendu. C'était sur Saint Jean de la Croix. Et Saint Jean de la Croix donne le conseil suivant. Vivez au monastère comme si vous y étiez seul. Si vous êtes seul, vous ne voyez pas le voisin qui ne fait pas son travail, ni son devoir d'État. Et du coup, ça vous laisse en paix. Alors c'est cette paix qu'il faut absolument acquérir en se souvenant qu'il rendra des comptes pour ce qu'il aura fait, qui n'a pas fait son ménage et qui n'a pas beaucoup aimé, parce que saint Jean nous dit qu'on rendra nos comptes sur la manière dont nous aurons aimé. Ben, c'est ça ce qui passe pour les pharisiens. Ils se donnent beaucoup de mal et ils voient que les autres n'en font qu'à leur tête et ils en laissent. Et ça, ça les met en difficulté. C'est pourquoi ils récriminent. Parce que pour eux, pour pouvoir rester purs, il fallait se séparer de ceux qui allaient de travers. Donc, les pécheurs qui risquaient de nous faire tomber, comme je viens de l'expliquer, eh bien, voilà. Alors, Jésus va leur donner une parabole en lui disant, mais 99 brebis, il va chercher la seule brebis. Mais c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Il est venu pour chercher celle qui était perdue. Les pharisiens oubliés, qui continuaient d'être pécheurs, malgré tous les efforts qu'ils pouvaient faire pour être parfaits. Eh bien voilà, c'est Jésus. Et il y a beaucoup plus de joie au ciel pour quelqu'un qui se convertit. Alors après, il donne une autre parabole avec cette femme. Eh bien, c'est qu'on a du prix aux yeux de Dieu. Et tout est bon, tout pour lui, pour essayer de ramener un pécheur et qu'un pécheur revienne vers lui. Et comme le pécheur ne revient pas, ben c'est lui qui va le chercher, comme dans la brebis perdue, et parce qu'on a un énorme prix aux yeux de Dieu. Et alors après, il nous donne encore une autre parabole avec ce fils qui a demandé sa part d'héritage et qui va tout dépenser, tout dilapider. Vous savez, on fait un peu la même chose, hein, on dilapide quelquefois les dons que Dieu nous donne. Hein. Eh bien, quand il rentre en lui-même, il a fallu naturellement qu'il soit dans la misère. Hein. Bon, généralement, c'est comme ça. Pour réfléchir, il faut quand même... voilà. Alors, la faim va le faire réfléchir, rentrer en lui-même et de se dire, mais bon sang, à la maison... Mon père traite ses ouvriers bien mieux que je suis là à l'heure actuelle. Eh bien, je sais ce que je vais faire, je vais retourner et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et quand il rentre, eh bien, il pouvait peut-être se demander tout le long du chemin comment il serait accueilli. Même avec sa formule qu'il avait apprise par cœur, il avait bien appris sa leçon, mais il ne savait pas très bien. Eh bien, le Père l'attend. Dieu, le Père, il nous attend. Et dès qu'il le voit, il court pour l'embrasser et se jeter à son cou. Alors l'autre répète sa petite formule qu'il a appelée par cœur, mais il a pas le temps de finir que déjà, on le rhabille, on lui met une bague au doigt et des sandales aux pieds, et on commence le festin. Vous voyez ? C'est comme dans la brebis perdue, il y a une grande joie au ciel pour un pécheur qui se convertit. Mais le fils prodigue comme le fils aîné, vous ne pouvez pas dire qu'ils aimaient tellement leur père. On le voit très bien avec le fils aîné. Lui, il fout le camp, il dilapide tout. Et puis lui, il fait des reproches à son père. « Tu ne m'as jamais donné un chevreau. » Et le père lui dira « Mais tout ce qui est à moi est à toi. » Alors. S'il avait été une relation d'amour avec son père, il lui aurait dit, tiens, ce soir, j'ai invité des amis, je prends un chevreau. Le père lui aurait dit, mais bien sûr. Mais il lui dit, tu m'as jamais donné. Il lui fait le reproche qu'il n'a jamais... Mais il n'a jamais rien demandé. Ah. Alors, bon, ben voilà. Et on voit, ces paraboles nous montrent la miséricorde de Dieu, l'attitude de Dieu qui va nous chercher, l'attitude de Dieu, parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu, et qu'en fin de compte, voilà, il se réjouit pour un seul pécheur qui se convertit. Et saint Paul, vous voyez, dans l'Épître, en fin de compte, il exulte de joie quand il pense à tout ce que Dieu a fait pour lui, comment il est venu le chercher là où il était, parce qu'il persécutait les chrétiens, il était blasphémateur, il était violent, etc. Et il découvre que Dieu lui a fait miséricorde, que pour Dieu, tout ça, c'était rien du tout. Voyez. Et alors, du coup, il est dans une reconnaissance absolument infinie, mais une reconnaissance, effectivement, quand on a fait cette expérience de la miséricorde de Dieu, eh bien, on est tout à la joie et on veut la faire partager aux autres. Et donc, on devient apôtre pour leur montrer tout ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, il exulte de joie en voyant tout ce que Dieu, la miséricorde de Dieu à son égard. Eh bien, au cours de cette Eucharistie, demandons et réjouissons-nous pour la miséricorde de Dieu à notre égard.